RCF.
C'est Grand Angle, bonjour. Le pain et le vin, trésor d'humanité, eh bien c'est le thème de l'émission aujourd'hui préparée en partenariat avec le mensuel Panorama. Ce sont des nourritures élémentaires et pourtant, le pain et le vin sont des compagnons d'humanité chargés de sens, d'histoire. Rien de plus simple et pourtant rien de plus riche que le pain et le vin qui sont aussi le fruit du travail des hommes et d'un savoir-faire, un héritage précieux que l'on redécouvre. On va en parler avec mes invités. Fanny Chiroux, bonjour. Vous êtes rédactrice en chef de la revue Panorama qui propose ce mois-ci, qui propose chaque mois d'ailleurs, un supplément d'âme, hein, c'est marqué sur la couverture.
C'est la promesse en tout cas.
C'est la promesse. Dans ce numéro du mois de mai, vous publiez un grand entretien autour du pain avec Hélène Mouton, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes donc dans cet article de Panorama, vous dites hein, qu'on le donne vie au pain, mais il ne nous appartient pas. On va en parler, vous êtes boulangère dans le Loiret, non loin de la basilique de Notre-Dame de Cléry. Et vous assurez des fournées artisanales. Vous allez nous raconter ce parcours. Anthony Courtaille, bonjour.
Bonsoir.
Vous êtes vous aussi boulanger après avoir été cuisinier, puis avant boulanger, donc c'est un retour aux sources. Vous êtes boulanger en plein Paris, non loin du canal Saint-Martin, après avoir tenu donc un restaurant. Vous avez choisi le pain que vous travaillez à l'ancienne et avec imagination, vous allez nous raconter. Christophe Lucan, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes spécialiste de l'histoire du vin, agrégé d'histoire, enseignant à Sciences Po et à l'Institut universitaire de la vigne et du vin. À Dijon, c'est assez logique. Auteur de « Comment la France a révolutionné le monde du vin » paru il y a quelques semaines chez Duno. Et vous êtes aussi par ailleurs bien enraciné, un président de la communauté de communes de Gevrey-Chambertin et Nuits-Saint-Georges. Thomas Teffry-Chambellan, vous êtes avec nous par téléphone, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes à Noyers-sur-Jabron, vous êtes boulanger, directeur et fondateur de l'école internationale de boulangerie. Vous êtes installé dans les Alpes de Haute-Provence. Vous êtes aussi l'auteur d'un livre écrit avec Nathaniel Daubouin, Une autre idée du pain, publié aux éditions de La Martinière l'an dernier. Le pain et le vin, trésor d'humanité, c'est le thème du jour de Grand Angle. C'est tout de suite sur RCF.
RCF, Grand Angle, présenté par Christophe Hénin.
Fanny Chiroux, c'est la question traditionnelle pour commencer l'émission. Pourquoi ce sujet? Comment avez-vous trouvé cette jeune boulangère qui parle à la fois de son métier, mais aussi de son parcours, de son engagement? Ça, elle va nous le raconter après, Hélène Mouton. Ça semblait important de parler du pain dans Panorama.
Le pain, c'est un lieu assez intemporel. Le pain, c'est un espace de rêverie, de fantasme. C'est un espace quotidien. Le pain, tout le monde le connaît et en fait, la façon dont on le fait, moins de gens la connaissent.
On va pas assez voir derrière ce qui se passe.
Oui, mais on n'a pas forcément le droit non plus de rentrer dans le laboratoire du boulanger. Nous, on connaît l'autre côté en fait, on connaît la vitrine qui fait envie, puis on entre et on achète notre baguette. Là, c'est vrai qu'on avait donné il y a un an la parole à un vigneron du Var, Olivier de Boisjolin, qui est diacre et vigneron, qui nous avait parlé du vin, mais même de toute sa dimension spirituelle, de son ancrage dans l'histoire et dans l'humanité. Là, c'était le tour du pain, avec Hélène Mouton, qui a le visage de la jeunesse, qui appartient aussi à une génération qui a une nouvelle façon de travailler, qui a une nouvelle façon de voir la vie, et qui a choisi le pain pour donner un sens à sa vie.
Le pain, c'est aussi... Il y a quelque chose de symbolique autour du pain, notamment pour le christianisme.
Alors, évidemment, on avait bien en tête toute cette dimension. Et c'est vrai que tous les boulangers ne peuvent pas forcément parler du pain de la façon dont Hélène le fait. Et donc ça, c'est sûr qu'en termes de casting, il fallait être très patient et attendre de tomber sur une perle rare qui nous parlerait du pain d'une façon poétique, d'une façon essentielle.
Avec foi.
Et avec aussi un certain ancrage dans une histoire. Et un immense respect pour une profession dans tout ce qu'elle a, toutes ses facettes, même celles qu'on a envie de critiquer. Voilà.
Et puis aussi, cette présence... dans le Loiret, vous allez nous en parler, Hélène Mouton, mais pour vous, c'était important aussi, Fanny Chiroux, qu'il y ait cet ancrage cette vie à travers la vie des villages, des communes, des commerçants.
Je pense que même à Paris, en fait, partout, à Paris, en Dordogne, dans le Loiret, dans le sud de la France, je pense que partout où on fait du pain, il y a un désir d'ancrage. Enfin, s'il y a une grande leçon dans cette interview, c'est celle-là.
Hélène Mouton, comment vous êtes venue à faire du pain? L'histoire est assez surprenante parce que ça s'enracine au-delà de nos frontières.
C'est vrai. J'ai découvert le pain en Argentine lors d'un voyage où j'avais 22 ans à la recherche de moi.
Parce que vous avez fait des études.
Oui.
Et puis vous avez décidé de partir. Des études qui n'avaient absolument rien à voir avec la boulangerie.
En tout cas, oui, avec le pain, concrètement, non. Après, c'était quand même des études d'hôtellerie management, donc beaucoup dans ce monde de restauration, d'hôtellerie, de grandes étoiles. Et puis, donc, j'ai fait une licence qui était en fait un diplôme qui s'appelle European Bachelor. Donc, c'est vraiment sur 3 ans, 1 an en France, en Angleterre, en Espagne. Donc c'était une très belle école, et puis je me suis pas sentie complètement à ma place, et donc j'étais en train de la chercher cette place, et je suis partie en Amérique du Sud un an en sac à dos, à la recherche.
C'est là-bas que vous avez trouvé des baguettes françaises?
Non. Enfin, quoique, en Équateur, à Vilcabamba, il y a une très belle petite boulangerie qui fait du bien quand on part longtemps.
Comment avez-vous découvert boulangerie plus que le pain même?
Oui, tout à fait. Là, c'était grâce à Inès, qui est entre autres vétérinaire et puis qui était une maman, en fait, effectivement, pour nous tous, en faisant du woofing. Le woofing, c'est une pratique où on offre son temps de travail contre de la nourriture et puis un lit le soir. Donc je suis restée 2 mois dans cette ferme. Et Inès, elle m'a appris à semer des patates, à nettoyer les pattes des chèvres, enfin à plein de petites choses, et notamment aussi à faire du pain. Donc c'est arrivé un peu comme ça. Et puis c'était ma tâche du matin. Il y avait quand même 20 woofers, donc on était assez nombreux. J'y ai pris goût. Et puis après, au fil du voyage... Tac, il y avait des petits retours de boulanger au Pérou, en Équateur, tout ça. Et puis du coup, là, je me suis dit, tiens, ça revient. Peut-être que je vais m'y pencher un peu plus. Et effectivement, à mon retour, j'ai voulu passer donc le CAP de boulangerie à Périgueux, chez moi.
Et donc, après, donc, vous cherchez du travail, mais vous voulez travailler un pain peut-être un peu autrement. Vous auriez pu travailler dans n'importe quel boulanger avec ce diplôme.
Alors, en fait, quand j'ai passé mon CAP, au début, je voulais pas forcément faire du pain concrètement. Je voulais proposer des ateliers pour enseigner. Enfin, en tout cas, c'était un véhicule de partage pour moi et de pour rassembler. Donc, je voulais proposer des ateliers de fabrication de pain en pleine conscience et en éveil de sens et de conscience. Voilà, c'était vraiment ça. Puis, vu que j'ai un côté un peu artiste... Je voulais un peu faire un spectacle et tout ça. Enfin bon, j'étais un peu dans ces choses-là.
Vous avez fait une pièce de théâtre?
Oui, il y a un spectacle qui s'appelle Fait du pain. Ouais. Et donc voilà, après, je voulais travailler avec des gens passionnés. Ça, c'était vraiment la leçon que j'avais retenue justement de mes études. C'était que je voulais vraiment me retrouver avec des gens qui aiment ce qu'ils font profondément. Et ça, c'est arrivé... d'un coup, vraiment, ça a été... Donc après, je suis partie et il y a eu d'autres choses entre-temps. Et là, depuis mai dernier, donc je fais du pain
voilà, alors vous faites si j'ai bien compris, vous faites une fournée par semaine et que vous distribuez après. Donc là aussi, ce côté relationnel que vous voulez avoir avec un pain qui est un peu différent des autres.
Moi, je pense que tous les pains, à chaque pain, sont boulangers.
Comment vous pourriez le qualifier, votre pain? On verra pour les autres.
Comment je le qualifie?
C'est le pain d'Hélène.
Ouais, c'est le pain d'Hélène. Il est plein d'amour.
Ouais. Parce que ça, c'est important dans la recette.
Bah, c'est l'intention, c'est le plus
dans
important.
Dans l'entretien avec panorama. Anthony Courteil, quand vous entendez Hélène Mouton, qui est un peu plus jeune que vous, vous avez aussi un parcours un peu comme ça. La boulangerie vous a rattrapé d'une certaine manière.
La boulangerie m'a rattrapé, mais enfin, elle est revenue à moi. Mais en même temps, quand j'entends Hélène parler, je me dis c'est cool parce qu'on a tous, cet amour du pain, en fait, ce truc qu'on a au fond du ventre, en fait, qui nous dit tous les jours ouais, c'est cool, on va faire le pain, on va faire plaisir aux gens, parce que ça, c'est des notions qui sont super importantes. En tous les cas, quand on donne à manger aux gens, et on va partager aussi ce pain. Et voilà, le parcours que j'ai eu, moi, j'ai vraiment voulu être boulanger. Enfin, voilà, c'est quelque chose de un peu différent, puisque moi, j'ai touché de la pâte à brioche quand j'avais 4-5 ans par un oncle à moi qui était boulanger. Et du coup, voilà, ces choses me sont restées. Et puis à 15 ans, quand il a fallu réellement faire le choix, bon, qu'est-ce que je vais faire, du coup, j'ai dit, bon, on va faire boulanger. Donc j'ai fait mon apprentissage. Après, je suis parti en Angleterre. Et en Angleterre, je me suis retrouvé à travailler dans des palaces. Donc il y avait un coin boulangerie, pâtisserie et une grande cuisine. Donc petit à petit, moi, je suis devenu cuisinier. Voilà. Après, je suis revenu sur Paris, où j'ai travaillé dans des restaurants étoilés sur Paris. Après, je suis parti en Espagne, revenu sur Paris, toujours cuisinier.
Vous avez créé votre petit établissement aussi.
Ouais. Avant la boulangerie, j'ai créé mon restaurant. Et voilà, retour sur Paris, j'ouvre mon restaurant.
Avec le souci de cette rencontre des gens.
Exactement, ouais, c'est là du partage. Parce que le restaurant, c'était juste une grande table où on pouvait accueillir 17 personnes sur cette grande table. Et une cuisine ouverte. Et moi, il y avait vraiment la notion de... Pourquoi cette grande table, de pouvoir fédérer les gens entre eux? Et puis j'appelais pas ça une table d'hôtes, j'appelais ça la table de cuisine à partager, dans le sens où comme la table qu'on a au foyer, à la maison, où on se retrouve tous en famille avec ses peut-être amis, famille, parents ou autres,
et c'était et vraiment
et ceux qui passent, voilà quoi. Et du coup au restaurant on faisait déjà le pain maison, voilà. Pour moi c'était important de mettre en valeur le pain à la table, parce que dans beaucoup de restaurants, c'est l'œil que j'ai eu en fait, le pain n'est pas souvent mis en valeur, et c'est un reproche que j'avais. Et du coup, pour moi, il me semblait très important, quand j'ai ouvert le restaurant, de remettre le pain à sa place autour de la table en fait.
Voilà. Et une fois le pain sur la table, finalement vous avez dégagé tout le reste, il reste plus que le pain.
Il reste plus que le pain. Et du coup, exactement, un peu audacieux comme pari, mais pour le moment je trouve que c'est un pari réussi, où du coup voilà, le restaurant on l'a arrêté, j'en ai fait une boulangerie, mais une boulangerie assez particulière, puisqu'on travaille vraiment principalement, on revient sur un retour un peu aux sources dans la méthodologie dans lequel est fabriqué le pain, et aussi un retour aux sources sur les produits qui sont utilisés. Déjà, tout est bio, on n'utilise que des farines de blé anciens, donc c'est des souches de blé d'avant les années 50, c'est-à-dire avant l'ère un peu industrielle du pain, où on a changé le blé.
On a tout normalisé.
Exactement, on a tout normalisé. Et du coup, en normalisant tout ça, les boulangers sont devenus à ne plus créer leur identité du pain. Vous voyez ce que je veux dire? Et on est venu à peut-être des boulangers qui étaient artisans, mais on leur imposait des farines, on leur imposait une méthode qui n'était peut-être pas propre à eux, mais voilà, qu'on allait chez un boulanger ou un autre, dans les années 80-90, ben, on n'avait pas l'impression qu'il y avait une grosse différence. Et du coup, moi, je voulais vraiment, à travers ça, faire un pain qui soit réellement personnalisé, en fait. Mmh. Et du coup, et la boulangerie aussi, elle-même. Et du coup, on fait un pétrissage manuel, des blés anciens, tout au levain, et on n'a rien à cacher, en fait. Les gens, comme à l'ancienne, comme au village, ils rentrent dans la boutique et ils sont dans le fournil.
Et là, on peut voir comment ça se fait. Alors, on a compris qu'autour de la table, il y avait des boulangers qui sont en quête de sens et de goût. Expliquez-nous, Anthony Courteil, expliquez-nous le pain au levain, non plus à la levure. Pour qu'on soit bien précis, parce que pour nous, consommateurs de base, on a peut-être un peu de mal à comprendre.
D'accord. Alors, la levure, en fait, en général, ce sont des... Le levain, faut imaginer que ce sont des levures naturelles. C'est-à-dire, tout autour de nous, là, si on mettait de la farine, si on mélangeait, pardon, de la farine et de l'eau, au bout de 2-3 jours, des levures naturelles vont se créer, voilà, en fait. C'est un développement bactériologique de moisissures, c'est un développement bactériologique, mais de bonnes bactéries, en fait, comme nous, on peut avoir dans notre intestin, qui sont là pour aider à la digestion. Et les levures classiques, dites boulangères, ce sont des levures industrielles à base de champignons. Voilà la différence.
Sont fraîches ou sèches, si j'ai bien compris.
Exactement.
Mais quand même différentes du levain. Parce que le levain, il faut le fabriquer soi-même.
Il faut le fabriquer soi-même, ça demande beaucoup de temps, ça demande à peu près 3 jours pour faire un levain, et ce levain, après, tous les 12 heures, il faut le rafraîchir. C'est des termes qu'on vous n'allez peut-être pas tous comprendre, mais rafraîchir, c'est-à-dire on lui rajoute de l'eau, on lui remet de la farine.
On l'entretient.
C'est comme si on le nourrissait, en fait, comme si on avait notre bébé qu'on voulait faire grandir à travers un pain, une souche, en fait. Quoi.
Mm-hmm. Hélène Mouton, le levain, c'est important?
Ah bah oui, c'est primordial même en fait.
C'est ça votre signature peut-être?
Ça fait partie, oui, des signatures. Le levain, c'est même un parallèle avec l'homme et on... Tu parlais tout à l'heure de la digestion. C'est totalement ça en fait. C'est ce qui va permettre concrètement à ce que l'intestin assimile les bons nutriments de la farine et de blé ou autres céréales qu'on utilise. Mmh. Ce qui n'est pas réellement possible avec la levure.
Avec la levure, exactement. Ouais. Et en fait, les levains et les temps de fermentation, ça. Il faut beaucoup plus de temps, ce qui fait que la digestion est meilleure en fait, contrairement à des pains où on met juste de la levure industrielle. Le temps de fermentation est tellement court que cette fermentation va aider la digestion. Et sans fermentation, le pain, et en 2 heures, vous allez faire du pain. Qu'est-ce qui se passe? Ça a gonflé, certes, ok, mais il n'y a pas eu ce réel travail qui pré-mâché, façon de parler, pré-digéré avant la digestion. Quoi.
Le pain, allez, pour dire vite, un peu industriel peut paraître plus léger et finalement il est peut-être moins digeste.
Exactement. Ouais.
Ah oui. À part si on a été très habitué, chose qui est un petit peu le cas quand même, il y a des clients qui ont des soucis avec la digestion du levain parce qu'en fait on a tellement été habitué à consommer déjà des farines qui sont très peu raffinés, donc tout le contraire, qui sont vraiment lissés et très blanches et où on va agrandir la protéine du gluten, cette fameuse dont on entend beaucoup parler, qui est essentielle pour avoir un pain qui soit gonflé. Mais là, du coup, elle est tellement agrandie que ça va aussi agrandir des problèmes. Et après, pour revenir à quelque chose de naturel, c'est compliqué en fait.
Il faut réhabituer son corps
à nos bactéries, ouais, c'est compliqué.
Si je comprends bien, le pain, c'est quelque chose qui est très vivant. On va en parler avec Thomas Teffry Chambellan. Depuis le début de l'émission, vous entendez, vous vous reconnaissez dans les parcours d'Anthony et d'Hélène, Thomas Teffry Chambellan?
Oui, tout à fait, puisque je suis également issu d'une reconversion. J'ai donc étudié la biologie et été enseignant de biologie dans les collèges en France, donc à l'éducation nationale. Et j'ai quitté l'éducation nationale un peu comme Hélène et Anthony, on va dire, pour suivre une passion, en fait, le pain. Je faisais, comme pas mal de gens, du pain dans ma cuisine, et puis j'ai décidé d'en faire mon métier. Je dois dire que, un peu comme tout le monde, je pense que mon parcours initial m'a aidé dans ma reconversion, puisque il y a des liens quand même assez forts entre la biologie et la panification. Dans ce qui vient d'être dit, par exemple, c'est vrai que quand on essaye de définir ce que c'est qu'un levain, pour revenir un petit peu sur ce qui a été dit, un levain, c'est un mélange en fait de levure et de bactéries. C'est vrai que la boulangerie classique utilise que des levures, et nous, les boulangers au levain, on travaille avec des levures et des bactéries. Et c'est vrai que le travail bactérien va donner tout un tas d'aspects différenciants, on va dire, sur le pain, d'un point de vue gustatif, aromatique, diététique, etc. Donc en fait, une de nos spécificités, nous, les boulangers qui travaillons au levain, c'est effectivement d'apprivoiser un peu des bactéries et d'utiliser un peu leurs services dans la panification. Donc oui, je me reconnais tout à fait dans ce parcours-là. Ensuite, c'est vrai que j'ai été aussi boulanger pendant les 10 premières années de ma vie sur une structure qui produisait du pain. Aujourd'hui, je suis toujours boulanger, mais avec un volet, on va dire, plus pédagogique, puisque donc j'ai fondé...
Alors expliquez-nous justement cette école internationale de boulangerie que vous avez fondée et qu'est-ce que vous proposez comme enseignement du coup, et à qui s'adresse-t-il?
Alors, l'enseignement proposé à l'école internationale de boulangerie, c'est un enseignement qui est spécialisé sur tout ce qui concerne donc la boulangerie au levain et la boulangerie bio, puisque ce sont deux secteurs qui n'étaient pas enseignés, on va dire, de manière spécifique en France depuis longtemps. Donc moi, pour moi, c'était une évidence. En fait, hein, j'ai toujours travaillé en bio, j'ai toujours travaillé au levain. Et comme pas mal de gens qui étaient en reconversion, bah, j'ai eu des débuts relativement difficiles puisque j'ai dû apprendre sur le tas. Et j'aurais bien aimé, il y a 20 ans, rencontrer une école qui puisse m'orienter un peu dans mon parcours. Donc, c'est vrai qu'en 2006, j'ai rejoint un petit peu mes deux métiers, la boulangerie et l'enseignement pour fonder cette école. Alors aujourd'hui, l'école s'adresse essentiellement à des adultes en reconversion. On accueille une quarantaine d'adultes par an qui ont des projets de reconversion. Et c'est un des points assez intéressants. Hélène a tout à l'heure évoqué le terme de véhicule. Elle a dit que le pain, c'est un véhicule de partage. Et c'est vrai que le pain est un point de rencontre, en fait, pour beaucoup de gens. Et c'est aussi un point d'articulation dans la vie professionnelle et puis dans les parcours des gens. Aujourd'hui, les adultes qu'on accompagne sont des adultes qui ont généralement entre 30 et 50 ans, qui sont généralement diplômés, qui ont généralement des très belles situations professionnelles, mais qui sont en perte de sens complet finalement dans ce qu'ils font et qui veulent revenir à des fondamentaux, qui veulent trouver du sens dans leur métier au quotidien. Donc nous, on les accompagne sur deux volets principaux, un volet métier pour qu'ils soient autonomes dans la production de pain et puis sur un volet entrepreneurial parce que être boulanger à son compte aujourd'hui, être chef d'entreprise, ben, finalement, ça demande des compétences également de gestion, il faut comprendre un marché, ça demande des compétences juridiques, des compétences financières, etc. Donc on essaie d'accompagner ces adultes pour qu'ils puissent monter leur projet.
Oui, il y a une dimension que Hélène Mouton soulignait tout à l'heure, il y a une dimension de passion manifestement dans ces choix de s'engager dans une pratique de boulangerie bio, je ne sais pas comment il faut dire. Comment on
dit, ouais. Naturel. Vivre aujourd'hui d'un métier artisanal en France, ça, c'est sous-tendu nécessairement par une passion, parce que c'est nécessairement un parcours relativement difficile. On reste sur des métiers de production, et donc il y a toujours une passion derrière, en fait, qui va relier les boulangers. C'est d'ailleurs pour ça que les boulangers alternatifs, donc les boulangers au levain, les boulangers bio, forment une sorte de communauté de fait, en fait, parce que finalement on partage tous quelque chose d'assez fort qui nous lie au-delà de toutes nos différences. On a quand même un lien fort à travers ce métier qui demande beaucoup d'investissement personnel. Et on va dire, sans passion, c'est un métier aujourd'hui qui est difficile à mener, quoi. Je pense qu'on peut interroger tout le monde là autour de la table et puis plus largement que ça. Tout le monde sera d'accord sur le fait que ça demande un investissement assez important, personnel, j'entends. Donc, finalement, c'est aussi notre travail à l'école, c'est d'accompagner des gens sans mentir sur la difficulté du métier et en même temps en essayant de replacer le métier de boulanger dans un cadre moderne, c'est-à-dire qu'on n'est plus au 19e siècle. Beaucoup d'adultes aujourd'hui souhaitent faire de la boulangerie et malgré la passion, il faut quand même arriver à vivre avec une vie du 21e siècle, avec une vie sociale, etc. Donc ça fait partie aussi de notre challenge à tous et notamment à l'école, c'est d'arriver à faire une boulangerie moderne en respectant ses passions, en respectant les produits, tout en remettant ce travail au centre d'une vie généralement familiale avec parfois d'autres passions à côté, etc. Et c'est vrai que c'est un challenge aujourd'hui de maintenir un artisanat vivant avec des produits de qualité dans une économie moderne, quoi. Voilà.
C'est une passion et c'est un pari. Hélène Mouton, oui, faut pas se leurrer. Bon, il y a toujours du pain à table, mais la vie n'est pas forcément toujours facile. Ça nécessite, vous faites vous-même vos tours pour distribuer du pain, il faut aller chercher la clientèle, peut-être.
Alors, aller chercher la clientèle. Oui. Alors,
il faut bien en vivre quand même.
Tout à fait. D'abord, c'est physique. Ça, c'est vrai, il faut le dire. Et surtout quand on fait tout de A à Z. Enfin, je suis pas encore meunière et paysanne. J'espère qu'un jour ça le deviendra. Mais là, juste le fait de faire le pain et à la main, donc de pétrir à la main, de façonner à la main, ça c'est quelque chose qui demande quand même,
un peu d'énergie. D'énergie. Et pourtant, il y a de plus en plus de femmes qui se mettent à la boulange.
Oui. Ça demande de l'énergie, mais c'est pas impossible. Aussi, c'est une habitude que le corps prend petit à petit. Voilà, c'est un changement qui s'opère tranquillement au sein du corps. Donc ça, c'est pas impossible. Après, c'est vrai que de livrer, tout ça, il y a des trajets d'aller chercher les produits et tout ça. Et puis de donner sa passion, c'est d'avoir cet échange justement. Il y a aussi un réel don psychique. Et ça aussi, c'est on donne, on reçoit beaucoup. Mais c'est vrai que il faut bien dormir.
Il faut s'investir, oui. Anthony Courtaille, alors effectivement, dans la profession, se féminise un peu.
Exactement, ouais. C'est vraiment quelque chose que je trouve et que j'apprécie énormément, parce que moi j'ai le souvenir quand j'ai passé mon CAP de boulangerie, il y a maintenant quelques années, donc environ 20 ans.
Le temps passe vite.
Ouais, le temps passe vite, ouais, mais c'est chouette, plein de choses se passent en même temps. Du coup, là, depuis que j'ai ouvert la boulangerie, et j'en parle souvent, je dis mais c'est incroyable, je reçois plein de CV, ce sont tout le temps des femmes, des jeunes femmes qui veulent faire de la boulangerie, et je suis vraiment surpris, et très agréablement surpris, parce que je trouve ça chouette. Après, parce que on a une parité qui est bien, qui est là, qui est présente. Et après, voilà, c'est quand même aussi des métiers, comme tu disais Hélène, c'est quand même aussi des métiers physiques. On doit porter des bacs qui sont un peu lourds, peut-être un sac de farine qui fait 25 kilos. On est là pour tout ça, mais je trouve ça vraiment très chouette.
Sur le côté économique, comment on peut en vivre? Parce que c'est un défi malgré tout.
Comme chaque entreprise, on est certes on est boulanger, on partage, on transmet notre passion, on souhaite en vivre, et avant d'être il y a être boulanger et il y a être aussi entrepreneur, et là voilà, c'est une autre casquette à mettre, comme disait aussi Thomas, si on veut perdurer dans ce métier là et dans
il faut s'organiser,
et puis faire ses bons ratios, faire ses bons calculs pour en vivre et payer tout le monde aussi.
Christophe Lucas, vous écoutez très sagement depuis le début de l'émission ces boulangers passionnés qui nous partagent leur métier, leur découverte. Il y a quelque chose de proche, alors je rappelle, vous êtes historien du vin, il y a quelque chose de proche du vigneron, ce rapport à la matière peut-être, au moins?
Oui, absolument. Alors j'écoute avec attention. Moi j'ai subitement envie de devenir boulanger écoutant ces témoignages qui sont assez exceptionnels. Effectivement, le vin est très proche de ce point de vue du pain, parce que c'est une boisson de convivialité, c'est une boisson de partage. Et on retrouve aussi beaucoup les aspects de transcendance, de mystère, d'alchimie autour de ces produits. On en a parlé tout à l'heure à travers la fermentation. Et effectivement, depuis des millénaires, ces produits, et le vin en tout cas en particulier, sont assimilés à des produits magico-religieux qui ont été très proches en fait des premières divinités, des premières croyances. Et c'est cette transformation qui est assez fascinante et qui va aussi entourer ces produits d'un certain mystère. Et ça, c'est tout à fait passionnant.
Eh bien, on va s'intéresser au vin juste après la musique.
Faudra toujours au bon pain, bonne farine et bon grain. Faudra toujours au bon pain,
nous enrouler dans la farine.
Faudra toujours au bon pain,
nous
bonne farine et bon
farine.
Grain. Faudra toujours au bon pain.
Y a rien au bout de ce chemin.
Les petites vies, les choses de rien. Ceux qui ont du blé, ceux qui n'ont rien. Il reste les miettes pour ceux qu'on faim. Quelques chansons, la vie ne vaut rien. J'ai un copain qui fait du pain. Faut dire que lui, il a un grain. Se lever si tôt de bon matin, il fait du pain pour ceux qui n'ont rien. Faudra toujours au bon pain, bonne farine et bon grain. Faudra toujours au bon pain.
Nous enrouler dans la farine.
Faudra toujours au bon pain,
nous
bonne farine et bon
farine.
Grain. Faudra toujours au bon pain.
Y a rien au bout de ce chemin.
La terre a pris un coup de chagrin, le vent ne fait plus tourner le moulin. Tout ce pognon, ça va trop loin, là on est vraiment dans le pétrin. Y'a plus de mal, y'a plus de bien. L'argent ne fait pas un bon levain. Faut remettre les nantis au turbin, en farine et tous ces crétins. Faudra toujours au bon pain, bonne farine et bon grain. Faudra toujours au bon pain.
Nous enrouler dans la farine.
Faudra toujours au bon pain, bonne farine et bon vin. Faudra toujours au bon pain.
Rien au bout de ce chemin.
Le bon pain chanté par le groupe Les Miettes. Ben oui, ça s'invente pas. C'était en 2016. Le pain et le vin, trésor d'humanité. On en parle, c'est Grand Angle sur RCF. On en parle avec Fanny Chéreau, Hélène Mouton, Anthony Courtail, Christophe Lucan et Thomas Steffry Chambellan.
Grand Angle, Christophe Hénin.
On revient au vin avec vous, Christophe Lucan. Alors, faut le dire, vous êtes historien du vin, vous êtes aussi bourguignon.
Bourguignon, pur jus de terroir. Effectivement, j'ai un parcours finalement assez moins singulier que mes voisins, mais j'ai effectivement vécu en Bourgogne. J'ai fait mes études en Bourgogne et donc j'ai accompagné cette philosophie, cette histoire aussi de la Bourgogne à travers mes études.
Alors, historien, je le disais, donc ça c'est aussi une passion, hein, l'histoire. Pour autant, vous n'avez pas été tenté par la vigne et par le vin directement?
Alors c'est aussi une affaire de famille, souvent la vigne en Bourgogne, c'est une affaire de dynastie, de vignerons. Moi j'ai pris la porte d'entrée de l'histoire, c'est assez différent, donc j'ai fait des études assez classiques en histoire, et c'est à travers le vin finalement que je me suis reporté sur le territoire de mes origines.
On parlait justement de cette fermentation qui intervient aussi bien pour le pain que pour le vin. Sur le vin, on est quand même sur une autre temporalité. Le pain, c'est à chaque jour son pain, enfin on espère, mais le vin, c'est sur l'année malgré tout. C'est un peu différent, le rapport au temps.
C'est certain, il y a un rapport au temps qui est très important, mais je crois qu'il existe très fondamentalement aussi avec le pain, et il y a un rapport au lieu qui est tout à fait essentiel. On ne fait pas le même vin selon le lieu d'où il est issu, bien sûr, de la viticulture. Et c'est un produit donc qui voyage à travers le temps et à travers l'espace, et ça, c'est assez fondamental pour l'identifier. Donc le vin a été pendant des siècles identifié par son nom de lieu, et il voyage et donc a une origine.
C'est ce que vous rappelez dans votre livre, Comment la France a révolutionné le monde du vin. Ça, c'est important justement, cette appellation qu'on donne au vin et qui est un peu sa carte d'identité, comme le pain a aussi une personnalité.
Oui, le vin qui porte un nom géographique, un nom de lieu, c'est un vin qui voyage. Donc le vin qui est vendu loin, qui est consommé par-delà les frontières, au-delà des horizons, par des consommateurs qui n'en connaissent pas son origine. Et donc il a été l'un des tout premiers produits de l'histoire à être identifié par son lieu, par des noms géographiques qui vont longtemps être assimilés à des marques, à des conceptions organoleptiques assez larges, à des standards de goût parfois, et qui vont devenir, dans l'histoire contemporaine la plus récente, des appellations. Des appellations d'origine, et ça c'est une histoire très française, puisque c'est la France qui a, la première, identifié ses produits, et en particulier le vin, par des noms de lieux, des noms géographiques, et qui a ensuite instauré cette réglementation, cette législation très étoffée dont on commémore le centenaire cette année, puisque la loi sur les appellations d'origine date du 6 mai 1919.
Voilà, on est presque pour l'anniversaire là. Presque pour la journée du pain aussi, hein, c'était la semaine dernière. Simplement, on parlait de la personnalité du pain, là vous parlez du lieu et des appellations. Il y a plus que ça, j'imagine, c'est chaque vigneron qu'on retrouve dans son vin.
Oui, bien sûr. Alors je me retrouvais totalement dans ce qui était dit sur le pain tout à l'heure. Oui, il y a un pain par vigneron, et chaque vigneron a son savoir-faire, ses pratiques, son héritage aussi, sa transmission, c'est important pour pouvoir concevoir le vin. Et concevoir le vin, ça n'est pas seulement un mode de fabrication, c'est un mode d'élevage. C'est toute une réflexion, un état d'esprit, une philosophie qui va accompagner le produit jusqu'à sa dégustation, à sa consommation.
Thomas Steffry Chambellan, cette histoire du vin, elle est parallèle, mais elle se partage aussi avec l'histoire du pain, non ?
Oui, je pense. Après, par rapport à ce qui vient d'être dit, c'est vrai qu'il y a quelque chose d'assez amusant. Un vigneron fait du vin peut-être 20 ou 30 fois dans sa vie. Un boulanger fait du pain des dizaines de milliers de fois dans sa vie. Et c'est vrai qu'il y a une temporalité qui est malgré tout assez différente, même s'il y a des histoires, même si l'histoire du produit est la même. Après, c'est une histoire, en tout cas pour le pain, qui est longue, hein, puisque c'est une histoire qui a plus de 10 000 ans et qui accompagne vraiment la naissance de nos sociétés. C'est-à-dire que les hommes se sédentarisent avec la domestication des céréales, et on sait que les hommes font du pain bien avant la domestication des céréales. Donc il y a dans l'histoire du pain quelque chose de très lié finalement et de conjoint avec à la fois la sédentarisation de l'homme et le développement de nos sociétés. Mmh. Voilà. Après aujourd'hui, en reprenant un peu les parcours aussi des gens qui sont là sur le plateau, c'est vrai que le pain va un petit peu plus loin, c'est-à-dire que le pain accompagne aussi nos changements de société aujourd'hui, et je vois moi de mon côté une action très politique finalement dans le pain, en tout cas dans ce pain alternatif dont on parle aujourd'hui, puisque c'est une manière de matérialiser, de montrer que d'autres choses sont possibles, des économies locales sont possibles, monter des entreprises avec des chaînes de valeur fortes, c'est possible, et c'est ce que montre chacun des artisans boulangers qui travaillent au levain, c'est qu'on peut travailler en bio, on peut travailler en local, on peut travailler et finalement gagner sa vie, créer des emplois, et c'est une action politique forte, quoi.
Mmh. Alors ça, c'est important ce que vous dites, parce que Anthony, justement, cette question, vous pouvez être habité de votre passion, mais s'il n'y avait pas les clients derrière aussi, curieux de ce que vous faites, ça ne pourrait pas marcher.
Donc, non, bien sûr.
Ouais. Vous sentez cette curiosité, cet intérêt justement pour des pains autres, pour une façon peut-être aussi de consommer différente.
Oui, ça se ressent. Ouais. Je le vois, moi, au niveau des clients qui viennent à la boulangerie, ils veulent découvrir des choses nouvelles, en fait. Et en même temps, ils veulent faire attention à eux. Ils veulent prendre soin de ce qu'ils mangent. Faut imaginer que ce qu'on mange, c'est des choses qu'on met dans notre corps. À un moment, il faut savoir ce qu'on met dans notre corps, en fait. Et du coup, il y a une conscience qui est prise de la part de nos clients et puis de la part de nos futurs clients, j'espère, de se dire attention, il faut essayer de manger correctement, et la base de notre nourriture en France et même un peu partout dans le monde reste le pain, en fait, en tous les cas la céréale. Et c'est très intéressant de voir la manière dont les gens veulent consommer le pain maintenant, en faisant attention tout simplement à ce qu'ils ont, peut-être en consommer moins mais de bonne qualité.
Hélène Mouton, en général, dans une boulangerie, c'est une baguette pas trop cuite, merci, au revoir. J'imagine que vous, quand vous rencontrez vos clients, il faut quand même dire qu'ils sont clients. La conversation est peut-être un peu...
Je crois que je me fais reprendre de temps en temps quand je dis ça.
Alors, ce ne sont plus des clients ?
Alors, parce que je fonctionne encore différemment, parce que je n'ai pas de boulangerie. C'est-à-dire que je fournis que par commande, en fait. Il y a vraiment, je fais un nombre de commandes. Donc moi, j'ai mon objectif qui a été calculé effectivement pour savoir comment je vais vivre et tout ça. Du coup, j'ai que des commandes, et ce sont souvent des associations de maintien de l'agriculture paysanne qui me commandent des pains, avec des gens qui sont adhérents à ces AMAP ou alors à des groupements d'achat. Donc des gens qui sont déjà très actifs, en fait. Mmh. Et qui savent où est-ce qu'ils veulent, à qui ils veulent donner leur argent.
Qu'est-ce qu'ils attendent de votre pain qu'ils ne trouvent pas ailleurs ?
Effectivement, ce côté de la santé, déjà, qui est très important, donc de savoir que ce sont des farines biologiques, qu'il est fait au levain, encore une fois, c'est très important. Et puis après, je pense aussi qu'il y a un lien justement humain entre nous, qui est du coup, c'est là où je reprends le mot client, parce que réellement, là, tous les gens qui mangent mon pain sont des amis, en fait, sont devenus des amis, et on a un lien qui est fort, vraiment.
Ce lien, il doit être fort aussi pour le vin. Est-ce que ce mouvement, vous le sentez, Christophe Lucan, ce mouvement d'une démarche bio, d'une démarche un peu différente, en dépit de tout l'héritage des vignerons, il y a cette recherche aussi
Oui, c'est aussi le fruit d'une longue, longue histoire, et y compris d'une histoire très contemporaine. La France a été marquée pendant près d'un siècle par la domination d'un marché du vin agro-industriel. Hein. On a bu pendant des décennies et des générations du gros rouge à table.
Il fallait la quantité.
Il fallait la quantité, et on a bu en France par personne près de 200 litres par an de vin. Donc c'était aussi des modes de consommation qui correspondaient à des modes de production de l'époque jusque dans les années 1970 encore. Et donc on est passé, c'est vrai, à autre chose. On boit beaucoup moins aujourd'hui et on boit beaucoup mieux des vins de qualité. Et ça a accompagné justement cette démarche évoquée tout à l'heure à travers cette inscription foncière. On cherche aussi à connaître le produit, à savoir d'où il vient, comment il était conçu, à connaître et à rencontrer aussi le vigneron qui a pu le produire. Ça, c'est très important d'avoir en face la personne qui est à l'origine de ce produit et que cette personne soit en capacité aussi de le raconter, parce qu'un vin, ça se raconte. Un pain aussi, j'imagine, se raconte. Et c'est assez formidable, effectivement, de pouvoir accompagner cette consommation par un mode de circuit court et d'histoire et d'anecdotes.
Cette association du vin, du pain, vous l'aviez déjà quand vous teniez votre restaurant, Anthony Courteil.
Ouais, tout à fait. Il y a 3 semaines, on a fait tout un travail avec un accord pain et vin. Du coup, bon, c'était des vins de la Loire. Et c'était très intéressant parce que le fait d'avoir été cuisinier, je m'amuse à composer des pains, mais au lieu d'utiliser de l'eau, on va utiliser du jus de betterave et on fait un pain avec ça, en ajoutant des choses dedans, des anchois, des morceaux de betterave.
Ça veut dire qu'on peut associer aussi un pain à un vin. Il faut être attentif aux deux.
Oui, tout à fait. On peut, nous, la manière dont on avait procédé en fait pour faire cette dégustation, on était parti du vin. Et à travers ce vin, donc on avait dégusté ce vin, c'était plutôt très agréable. Et à travers ça, en fait, on a créé une trame et qui nous a permis de faire le pain, en fait. Il y a différentes manières de travailler ces accords pain et vin ou mets et vin. Soit on part du vin, soit on part du plat et on met un vin. Soit on part du vin et on fait un plat. Voilà.
Hélène Mouton, dans votre distribution de pain, hein, puisque vous le distribuez à vos amis ou vos clients, je sais plus comment faut dire, qui sont les deux à la fois. Oui. Il y a aussi justement une cave à vin qui a souhaité commercialiser votre pain en même temps. Ça montre bien cet alliage des deux.
Tout à fait. Les becs à vin à Orléans. Et ce qui est très drôle, c'est que la première fois que j'en ai entendu parler, c'était par mon oncle, Didier Mouton, qui est vigneron aussi et qui est un des pionniers, je pense, des vins naturels. Et donc au début, quand j'en ai entendu parler, c'était par lui. Et puis du coup, le hasard a bien fait les choses et je suis allée leur demander est-ce que vous voulez bien me servir de lieu de dépôt. Donc c'est un lieu de dépôt qui sert aussi le pain. Et voilà, là vraiment c'est un lieu soutien qui demande vraiment rien. Juste, ils sont là, je mets mes petits sacs avec mes pains et les gens viennent chercher le pain. Ils s'organisent tout seuls, il y a une petite fiche, ils rayent leur nom, ils donnent l'argent et pof, ils s'en vont. Voilà.
Le pain et le vin se marient bien.
Maybe climbing on rainbows, but baby, here goes. Dreams, they're for those who sleep. Life is for us to keep. And if you're wondering what this song is leading, it with you. I really think that we could make it good. No, you don't know me well, and every little thing only time will tell. If you believe the things that I do, see it through. Life can be short or long. Love can be right or wrong.
Make Kit With You, c'est par le groupe Bread, tout simplement. 1970, le pain et le vin, trésor d'humanité, c'est Grand Angle sur RCF aujourd'hui avec Fanny Chéroux, Hélène Mouton, Anthony Courteil, Christophe Lucan, Thomas Teffry-Chambellan.
Grand Angle, Christophe Hénin.
On parlait donc de ces à la fois cet héritage important pour le vin, qui est sans doute plus marqué que pour le pain. Anthony Courteil, pourtant, on s'intéresse aussi maintenant à, j'ai envie de dire, ce qui précède votre fournil, c'est-à-dire les farines et encore avant le blé.
Exactement, ouais. Les farines, le blé, l'agriculteur qui a produit ce blé, et entre deux le meunier aussi quand même. Et voilà, c'est ce qu'on parlait tout à l'heure durant cette pause. Hélène disait tout à l'heure qu'il y avait à peu près une centaine d'années, le blé était travaillé aussi comme le vin, dans le sens où on parle de cépage. On parle de cépage pour le vin, pour le blé. On va parler de variété et d'essayer de puiser en tous les cas à travers une certaine variété de blé qui soit en Bourgogne, qui soit en Provence, de puiser ce terroir et du coup d'apporter une autre identité du pain et de faire des pains qui sont par variété de blé, en fait, comme peut faire un vigneron, quoi, en fait, simplement. Mmh.
Thomas Thierry Chambellan, c'est ce que vous cherchez aussi, hein. Vous êtes, je le rappelle, hein, dans les Alpes-Haute-Provence, ce lien très fort avec le cultivateur, avec celui qui va vous fournir le blé.
Oui, tout à fait. Alors pour ma part, j'ai aussi une exploitation agricole depuis 2005. Je produis essentiellement du petit épeautre et parfois quelques autres variétés locales. Mais le petit épeautre est très adapté en fait à nos terroirs, qui sont des terroirs assez pauvres en fait en Provence. Donc c'est vrai qu'en étant sur des terroirs de production, on a effectivement des liens forts avec des producteurs, avec des meuniers aussi. Le moulin Pichard, par exemple, qui est le premier moulin à être 100% en bio en France, donc il y a une trentaine d'années. Donc ce sont toujours des gens relativement engagés finalement avec lesquels on travaille. Et donc je rejoins effectivement cette idée que de travailler avec des variétés locales fait sens aujourd'hui, même si les productions de variétés locales, de variétés anciennes, etc., sont à ce stade encore très confidentielles en fait sur la filière. Donc je pense que il y a deux propos finalement dans notre travail de boulanger. C'est revenir sur des productions locales quand on peut. Ensuite, revenir sur des productions de variétés différentes que ce que l'agriculture a mis en avant depuis 50 ans. C'est un propos qui est un petit peu plus compliqué aujourd'hui. Les variétés sont, voilà, je le disais, un peu confidentielles. Les semences ne sont pas forcément distribuées de manière aisée, etc. Donc, dans l'action finalement que nous avons, il y a soutenir une agriculture locale, puisque nous sommes un peu les derniers maillons de la chaîne en tant que boulanger. C'est nous qui transformons le blé, mais avant nous, il y a effectivement des producteurs et des meuniers. Donc on soutient finalement, à travers notre action, on soutient une filière agricole. Mmh. Et en ce sens, pour donner une idée. Allez-y. Comme ça, l'école internationale, on accompagne environ 30 projets d'ouverture par an, c'est-à-dire que nos stagiaires montent quasiment tous des projets, puisque ce sont des porteurs de projets, et chacun va transformer, selon la taille de sa boulangerie, 20 tonnes, 30 tonnes, 100 tonnes de farine par an, ça dépend un peu de la taille des projets, et en gros, les besoins cumulés de nos stagiaires, qui représentent une petite partie des boulangers bio, c'est plus de 2000 hectares, plus de 2000 hectares par an, en fait, de bio, dont on a besoin en plus. Et en ce sens, on voit qu'il y a vraiment un lien très fort, si vous voulez, entre les transformateurs que nous sommes en tant que boulangers et finalement les agriculteurs. Si on installe des boulangers bio, s'il y a des gens qui s'installent, ben, il y a des besoins d'agriculture biologique qui augmentent finalement sur le territoire.
Il va falloir développer.
En ce sens, on voit que c'est une vraie chaîne de valeur entre les clients qui nous demandent ce type de produits, nous qui les transformons et finalement des agriculteurs. Donc on est tous finalement dans un même bateau en train d'opérer une transformation lente mais profonde de la société.
Voilà, on a compris qu'il faut développer cette agriculture tout à fait particulière. On a l'impression, Christophe Lucan, que pour le coup la vigne est peut-être un peu en avance par rapport à cette démarche de blé, de culture qui serait vraiment identifiée, régionalisée, très particulière, du coup donnant un produit fini aussi particulier.
Oui, sans doute, parce que la vigne et le vin ont été très, très tôt industrialisés, dès le 19e siècle. Et donc, effectivement, un processus s'est accompli déjà dans l'inscription foncière de la qualité. Ça, c'est assez essentiel. C'est-à-dire d'être en capacité aussi de localiser cette qualité, de l'identifier et de la réglementer. Donc, on est dans le long cheminement, effectivement, de cette histoire de la vigne et du vin qui a franchi un certain nombre d'étapes avant tout autre produit.
Mmh. Quelle est l'étape suivante, est-ce que vous sentez qu'il y a des démarches un peu similaires à ces boulangeries naturelles ?
Bon, il est certain qu'il y a un désir très fort du consommateur de revenir à des produits ultra localisés, très personnalisés, très identifiés. Et donc là, il y a une convergence qui est évidente avec le pain et avec cette volonté d'authenticité, tout simplement.
Mmh. On trouve son boulanger au bout de la rue, mais pour le vigneron, il va falloir faire peut-être un peu plus de route pour aller.
Parfois, oui. Parfois vraiment.
Oui. Ou alors vraiment habiter une belle région, comme la vôtre. Fanny Chéroux, on sent que dans toutes ces démarches, il y a beaucoup de passion, on l'a dit au début. Il y a aussi une autre manière, peut-être, de vivre, un art de vivre.
En fait, moi, ce que j'entends, c'est y a un désir de un rapport à la nourriture qui change, mais il y a aussi un rapport à la terre qui change. Je pense que c'est une préoccupation qui habite de plus en plus les personnes de nos sociétés. Et c'est vrai que quand j'avais rencontré Olivier de Boisjolin, qui était vigneron dans le Var, il m'avait dit cette chose que j'avais trouvée très belle, un rapport très charnel à la terre. Il avait dit que la terre n'est féconde que si on entre en tendresse avec elle. Et c'est vrai que cette confiance et cette humilité...
Hélène Mouton donne beaucoup d'amour à son pain.
À son pain, et même à la terre, parce que c'est vrai que même dans le lien que les boulangers, tels que vous êtes boulanger autour de cette table et au téléphone, c'est vrai qu'on sent que même dans le lien avec l'agriculteur, avec la personne qui va prendre soin de la terre, il y a une vraie préoccupation à cet égard. Donc moi j'entends aussi... dans ce supplément d'âme, c'est une conscience que la terre a quelque chose à nous donner, à condition qu'on s'y soumette. C'est de l'ordre d'une grande confiance, d'une grande humilité, et qu'il faut avoir et qui est celle des personnes qui ont fait le choix d'un rapport au temps très différent de celui que notre époque promet, en fait. C'est vrai qu'on est très loin, on est à contre-courant, voilà. Mmh. Clairement, je pense qu'autour de cette table, on est à contre-courant.
Mmh. Comme l'est peut-être à contre-courant aussi l'Eucharistie avec le pain et le vin qu'on retrouve.
Ah bah oui, et puis je pense que aussi dans la foi chrétienne, il y a une recherche de contre-courant. Clairement, je pense qu'on veut renouer avec quelque chose qui est de l'ordre de l'intemporel, oui, mm-hmm. et du symbolique.
Le pain nourrit, le pain guérit, vous dites même Hélène mm-hmm. Mouton, c'est-à-dire que le pain, c'est vraiment un aliment qui paraît tout simple, mais qui a une place particulière.
Ouais, c'est un peu inexplicable, hein.
Bon, ben voilà, alors on va pas aller plus loin.
Non, mais c'est dans les gestes, je pense, qui sont ancestrales, de fait. Et puis, ben, pour moi, ça a été une thérapie de faire du pain. Et donc, en le proposant, je le vois lors des ateliers ou même quand les gens sont invités à venir pétrir avec moi, il y a réellement quelque chose qui se passe.
Mmh. Anthony, effectivement, il y a, au moment de pétrir, il y a quelque chose qui se passe qui n'est pas que physique.
Non, il y a vrai. Moi, je le vois aussi de temps en temps. On fait des ateliers et les gens, ils ont besoin d'avoir un sens et de retrouver une réelle valeur. Et du coup, il y a certaines personnes qui viennent faire des ateliers avec nous. Et du coup, il y a quelque chose qui se passe. Le fait de mélanger la pâte, ils sentent qu'il y a un intérêt de faire quelque chose en fait derrière ça. Peut-être par rapport à leur journée, je sais pas dans quel secteur d'activité ils sont, mais voilà.
Les mains dans le pétrin, ça fait du bien.
Ouais, voilà, exactement. Les mains dans le pétrin, ça fait du bien. Malgré l'expression avoir les mains dans le pétrin, où on se dit, on est plutôt mal barré, façon de parler. Mais non, du coup, d'avoir les mains dans le pétrin, on devrait plutôt changer le sens de l'expression.
Positif alors.
Voilà, exactement.
Fanny Chéroux.
Mais quand même, quand j'ai fait l'interview avec Hélène Mouton dans son petit atelier. Je peux vous dire qu'on a pétri et j'ai eu des courbatures pendant 2 jours. Donc c'est quand même physique. Il faut le temps que le corps s'habitue.
Et le résultat du pain était quand même...
était magnifique.
Magnifique.
Ouais, il avait beaucoup poussé.
Christophe Lucan, bien sûr, on parle du pain, le vin aussi, c'est un art de vivre d'une certaine manière.
C'est absolument un art de vivre et effectivement, on se retrouve complètement sur l'état d'esprit et sur l'authenticité. C'est un vrai retour aux sources, effectivement. C'est un vrai retour dans l'histoire partagée qui nous a tous unis.
Merci à tous les cinq pour ce partage. Alors mangez du pain, hein, buvez du vin, mais avec modération bien évidemment. Ça tout le monde le sait, le pain et le vin, un trésor d'humanité. Merci Fanny Chiroux, Hélène Mouton, Anthony Courtais, Christophe Lucan et Thomas Teffry Chambellan. Rappelez simplement une autre idée du pain, le livre de Thomas Teffry Chambellan et Nathaniel Deboin, c'est paru aux éditions de La Martinière. Et puis comment la France a révolutionné le monde du vin pour tout comprendre avec Christophe Lucan, historien qui publie chez Duno ce livre qui est sorti il y a quelques jours, hein, simplement. Merci à Pierre Samanos qui était à la réalisation. Et puis peut-être une petite annonce, Fanny Chiroux, parce que pour ceux qui ont la chance de ne pas être très loin, il y a une conférence qui s'annonce.
Une conférence qui s'annonce à Saint-Émilion, donc à côté de Bordeaux. Ce sera ce samedi 25 mai. C'est à 17h. Et c'est gratuit. Et Hélène Mouton, on la retrouvera. On la retrouvera avec François Michaville, qui est un vigneron, Tertre Rotebeuf, dans le Bordelais.
www.festival-philosophia.com. Vous pourrez retrouver les renseignements. La semaine prochaine, on se retrouve très vite. D'ici là, bon appétit.